Voilà, avant de laisser la parole à Michel Jean-Renaud, j'aimerais encore prier pour ce temps de prédication et aussi pour les enfants et les jeunes qui ont rejoint leur groupe. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. C'est un don extraordinaire que tu nous fais. Tu n'es pas une idole muette, tu es un Dieu qui parle au cœur, mais qui nous laisse aussi cette parole sur laquelle on peut retourner, revenir, mâcher, remâcher. Cette parole sûre et certaine, celle que tu as donnée une fois pour toutes, celle qui sera là jusqu'à la fin. Merci Seigneur de ton esprit, nous en avons besoin pour qu'il nous ouvre le cœur à recevoir cette parole, à la comprendre et à la transformer, à la mettre en pratique tous les jours. Je te prie aussi pour tous les groupes qui ont lieu ce matin dans les différentes salles. Merci de bénir les moniteurs, monitrices, merci de les bénir avec les enfants et les jeunes, que cette parole soit aussi pour eux une parole de vie, une parole d'encouragement, une parole de joie, de réconfort, de paix. Que ces paroles soient aussi des graines semées et plantées, qui puissent germer, porter du fruit dans toutes les vies. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci. Peut-être quelques mots d'abord pour me présenter brièvement. Je suis né à Genève il y a 30 ans et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans dans le quartier du Petit Lancy. Et après, nous avons déménagé avec mes parents dans le canton de Vaud où j'ai passé 19 ans de ma vie, le plus clair de ma vie. Et c'est assez jeune que j'ai senti un appel à servir le Seigneur. Et en fait, le Seigneur a ouvert les portes pour que j'aille étudier à l'Institut biblique Emmaüs. Et après cela, j'ai fait aussi un stage pastoral dans une église évangélique à Lausanne. Et puis, suite à cela, j'ai voulu aller plus loin dans la réflexion biblique et théologique. Et j'ai continué mes études à la faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence. Et maintenant, j'arrive au bout de ma première année comme pasteur à l'église de la Pélisserie. Donc, je suis nouveau dans le ministère, mais pour moi, c'est vraiment un privilège aussi. Et ce matin, c'est aussi un privilège et une responsabilité pour moi de vous apporter l'encouragement de la part du Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons maintenant, tourner les yeux vers ta parole, continuer d'admirer, comme nous l'avons chanté, la beauté de ton être, et que cette beauté aussi, nous puissions en comprendre quelque chose. Et qu'en regardant dans ta parole, ton esprit puisse l'appliquer à notre cœur pour qu'elle produise du fruit. Et que ce fruit soit un fruit éternel. Et que cela ait un impact, Seigneur, dans notre vie, mais aussi dans la vie de tous ceux que nous côtoyons au quotidien. Merci de bénir ces instants et de nous conduire dans toute ta volonté. Amen. Imaginez que vous vous promeniez dans les rues de Genève ou de Mérin et que tout d'un coup vous passiez à proximité d'un kiosque et vous vous arrêtez et puis il y a une revue qui attire votre attention. C'est une revue scientifique. Elle a comme grand titre « La personne à l'origine de notre univers, nouvelle révélation sur celui qui a tout créé ». Alors, si cela vous arrivait, vous seriez probablement très intrigué et vous iriez immédiatement acheter cette revue. Alors, imaginons que vous l'ayez achetée et au début de cette revue, il est écrit « Après de longues années de recherche et des enquêtes sérieuses, les scientifiques ont trouvé qui est à l'origine de notre univers. Il s'agit de Jésus-Christ ». Alors bon, vous seriez probablement peut-être un peu étonné de voir cela dans une revue scientifique. Et pourtant, c'est ce que la Bible affirme. Et c'est aujourd'hui, en fait, le texte que nous allons partager se trouve dans l'Épître aux Colossiens. Et dans ce texte, il est écrit que Jésus-Christ est à l'origine de notre univers. Alors je vous invite à écouter la lecture des versets 9 à 23 du premier chapitre de cette lettre. Colossiens 1, 9 à 23. Et le texte sera projeté et sera lu par Harry Meyer.
Paul qui parle. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris,
Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur.
Paul, dans cette lettre aux Colossiens, désire encourager cette communauté. Il désire aussi, en fait, contrer certains enseignements qui avaient cours dans cette communauté, certaines pensées qui étaient fausses au sujet de Dieu. Et aujourd'hui, pour nous, face aux nombreuses idées qui circulent dans notre monde, il est important que nous ayons un modèle pour pouvoir évaluer ces pensées. Il est également important que nous comprenions quel est un de nos rôles à jouer sur la terre. Et ce texte y répond. Paul n'était pas le fondateur de cette communauté. Pourtant, il va adresser des paroles très précises à celle-ci. Il ne va pas s'amuser à décrire toutes les erreurs de croyance qui existaient dans cette communauté, mais il va plutôt attirer l'attention sur le Christ. Et c'est une manière de procéder qui est assez intéressante. Alors, dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir d'abord les implications d'une juste connaissance de la volonté de Dieu. Ensuite, la description du Christ dans son action et dans sa personne, les versets 14 à 20. Et enfin, la conséquence de cette œuvre du Christ pour celui qui demeure dans la foi, les versets 20 à 23. Paul, en s'adressant à cette communauté, met d'abord au premier plan la prière. Il dit que Timothée et lui ne cessent de prier pour cette communauté. La prière de Paul montre que celle-ci avait besoin d'avoir une connaissance particulière de Jésus-Christ et de la volonté de Dieu. En effet, il y avait des faux docteurs, des faux enseignants dans cette communauté, et Paul voulait montrer les erreurs de ces faux enseignants. Alors cette connaissance, elle consiste à connaître de manière surabondante la volonté de Dieu, en particulier dans deux domaines, la sagesse et l'intelligence spirituelle. Alors pour Paul, ces deux domaines, ils n'étaient pas théoriques, comme c'est parfois le cas pour nous, mais ils avaient des implications dans tous les domaines de la vie humaine. Au verset 10, Paul affirme que celui qui connaît la volonté de Dieu cherchera à lui plaire à tout point de vue. C'est-à-dire qu'il vivra sa vie en centrant ses choix et tout ce qu'il fera sur la parole de Dieu, sur le filtre de la parole de Dieu. Donc on voit que pour nous, quand nous sommes remplis de la connaissance de Dieu, quand nous cherchons à l'être, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui nous donne juste une connaissance intellectuelle. Il y a une conséquence de cela. Parce qu'en fait, même le diable a une connaissance intellectuelle de certaines choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Être rempli de la connaissance de Dieu devrait avoir une conséquence pratique pour chacun d'entre nous. Alors Paul en liste quelques-unes. Il dit que les Colossiens sont appelés à être plus patients, plus persévérants. Également, cela devrait affecter leur manière d'être avec les autres. Également, leur activité pour le Seigneur. La connaissance dont Paul parle ici, en fait, nous engage le croyant à agir dans la vie de tous les jours. Notre vie, en tant que croyant, comme le dit Paul ici, peut être remplie de bonnes œuvres, celles que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais ce qu'on remarque, c'est que Paul, il ne dit pas quelles œuvres on devrait faire. Il n'est pas en train de faire un catalogue, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Au contraire, il responsabilise chaque croyant pour que lui sache quelles œuvres il doit faire en les cherchant et en cherchant à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Paul aussi ne dit pas que ses œuvres vont rendre les gens plus saints ou plus justes devant Dieu. Non, ses œuvres, elles découlent du fait que les gens sont croyants et qu'ils ont accepté Christ dans leur vie. Et je l'ai dit, la vraie foi en Christ, la vraie connaissance du Seigneur Jésus, transformera autant notre être intérieur, ce que nous pensons de Dieu, que nos relations extérieures envers tout le monde. Face aux fausses conceptions qui circulaient dans l'église de Colosse, Paul va tracer en fait un portrait du Christ. Et un portrait qui a pour but d'éblouir les chrétiens, pour qu'ils laissent de côté peut-être leur spiritualité bon marché, pour se tourner vers celui qui peut pleinement les satisfaire. Et l'encouragement, c'est que pour nous aujourd'hui, eh bien, ceci est encore possible. Nous pouvons encore connaître le Christ dans toute sa vérité et sa personne. Mais vous pourriez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais à quoi ça va me servir? Pourquoi est-ce que je devrais chercher à faire des bonnes œuvres? Et pourquoi est-ce que je devrais chercher à toujours acquérir une image plus juste de qui est Jésus? Eh bien, la réponse à cette question est qu'en fait, que si vous appartenez au Christ, eh bien, celui-ci est le chef de votre vie. Et vous appartenez, comme le dit Paul également, au royaume du Christ. Au verset 12 et 13. Vous avez été transportés dans un autre royaume. Mais cette nation dont vous faites partie, elle n'a pas pour but de se désintéresser de cette terre, de cette vie humaine que nous avons. Au contraire, Dieu nous charge et nous demande de nous investir dans cette terre et de nous investir dans nos relations avec les autres et aussi avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour illustrer la manière dont Paul va continuer à parler à l'église de Colosse, on peut penser à un artiste qui a peint un tableau. Alors dans un tableau, vous aurez plusieurs choses que vous pouvez observer. Vous aurez le style de peinture, avec quel type de peinture c'est fait, est-ce que c'est à l'huile, est-ce que c'est acrylique, etc. Mais vous aurez également les formes et les contrastes qui seront différents. Et il y a certaines œuvres dans l'histoire de l'art qui ont révolutionné la peinture, comment on peignait justement. Évidemment, vous pourrez me dire, mais l'art c'est subjectif. Mais ce que Paul dit ici, pour la foi, n'est pas subjectif. Le portrait que Paul va donner s'adresse à tous les chrétiens. Et justement, c'est dans les versets 14 à 20 que Paul va donner une description plus précise de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. La première chose que Paul affirme, c'est qu'en Christ, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est des choses qui, pour les croyants les plus avancés, nous entendons souvent. Le mot rédemption signifie en fait la délivrance, le rachat d'un esclavage. Et cela se fait par le versement de quelque chose, d'une somme. Quand Paul dit que nous avons la rédemption en Christ, il veut dire que c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait que nous sommes libérés du mal et du péché. En effet, il existe entre chaque être humain et Dieu une séparation. Cette séparation fait que l'homme ne vit pas comme Dieu le demande, il ne le peut même pas. Car ce que Dieu exige de l'homme, ce que Dieu exige de chacun d'entre nous, c'est que nous soyons parfaits sur le plan moral, mais également parfaits dans tous nos actes. Mais à cause, en fait, du péché qui est en nous, cela nous est impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ, en mourant sur la croix, en fait, a enlevé la culpabilité que nous avons face à cela. Et il remplace également notre ancienne nature, ce qui nous poussait à faire le mal, par une nouvelle nature qui, elle, peut faire le bien. Et la perfection morale que Dieu demande, eh bien, c'est seulement le Christ qui l'a obtenue une fois pour toutes. Mais il la donne à quiconque lui fait confiance, à quiconque lui demande de venir dans sa vie et lui demande d'être le chef, le maître dans sa vie. Et cela se manifeste quand quelqu'un demande pardon pour ses péchés en demandant à Christ de venir dans sa vie, et que cette personne s'engage à vivre une vie selon la volonté de Dieu. À partir du verset 15, Jésus-Christ est continué d'être décrit dans toute sa splendeur. Il est d'abord l'image du Dieu invisible. Alors une chose qu'on entend souvent parmi nos contemporains, c'est qu'on ne voit pas Dieu, comment croire en lui ? Eh bien c'est vrai, on ne peut pas voir Dieu, Dieu est esprit. Par contre, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu nous révéler qui est Dieu. En ce sens, lorsqu'on regarde à Jésus-Christ, nous voyons comment est Dieu. Lorsque nous regardons comment Jésus-Christ était dans ses relations et dans son être, eh bien cela nous montre comment est Dieu. Et alors, pour les personnes qui disent « Ah, on ne voit pas Dieu », eh bien on peut leur dire « Oui, on ne peut pas voir Dieu directement, mais on a le témoignage de ceux qui ont vu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'image de Dieu. » Je pourrais vous poser la question, combien d'entre vous avez jamais vu la montagne de l'Everest ? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été dans ce coin de l'Asie et a vu l'Everest ? Voilà, il y a une personne. Eh bien, pour nous autres,
de l'avion.
Voilà. Et effectivement, nous savons tous que l'Everest est la plus haute montagne de notre monde. Pourtant, très peu d'entre nous l'avons vue de nos yeux. Eh bien, dans la Bible, c'est à peu près, il y a une similarité. Nous croyons le témoignage de personnes qui ont vu Jésus-Christ vivre et qui l'ont vu parler et qui nous ont donné ce témoignage. Et pour ceux qui sont sceptiques, eh bien, la solution est simplement de les inciter à lire la parole de Dieu pour y chercher Jésus-Christ. Le Dieu invisible s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Paul affirmait aussi cela probablement pour démontrer que la foi chrétienne n'était pas de l'ordre du récit mystique, du mystère, que certains justement prenaient dans cette communauté. Certains mettaient en avant qu'il fallait passer par certains rites un peu bizarres. La deuxième chose que Paul dit dans son portrait de Jésus-Christ est qu'il est le premier-né de toute la création. Après, il dira qu'il sera le premier-né d'entre les morts. Alors, pour le premier-né de toute la création, cela signifie que Jésus-Christ existait avant toute chose. Mais cela ne veut pas dire que Jésus ait été créé. L'expression « premier-né » se retrouve aussi dans le psaume 89, au verset 27. Et je vais le lire. « Dieu déclare de David... Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Donc on le voit, Être le premier-né, cela signifie avoir une position d'autorité sur les choses. Parce que David n'était pas la première personne qui a été créée par Dieu. Par contre, il était un roi qui avait une autorité sur les autres. Il en est ainsi du Christ. Il a une position d'autorité sur notre monde et il a également une position d'autorité sur notre vie. Cette position d'autorité se voit aussi car tout a été créé par lui et pour lui. Alors de là, je vais tirer une application pratique en fait. C'est que souvent, nous vivons comme si notre vie nous était due ou comme si tout tournait autour de nous. Nous sommes, comme on dit, le centre du monde. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que le centre de l'univers, eh bien, ce n'est pas l'homme, mais c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. Alors justement, si on a l'impression que le monde tourne autour de nous, eh bien, la vision biblique nous invite à changer de regard là-dessus et à croire que le but de notre vie, ce n'est pas d'être plus heureux, plus content, d'avoir plus de choses, ou encore d'être plus fort ou plus riche. Le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu, en reconnaissant d'abord qu'il est le Christ qui est venu à nous, et en lui donnant notre adoration et notre confiance. Au verset 19, Paul ajoute encore quelque chose. Il dit qu'il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Alors on le voit dans ces versets, il y a des notions qui sont peut-être inhabituelles, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Pourtant, elles sont importantes. Les Colossiens, comme nous, devaient être convaincus que la plénitude spirituelle ne se trouvait qu'en Jésus-Christ. Parfois, j'entends des personnes qui me disent qu'elles vivent une expérience spirituelle hors du commun en écoutant telle ou telle personne ou en étant dans tel ou tel cadre. Et notre société, elle est avide de cela. On voit qu'il y a énormément de livres qui concernent le développement personnel, comment améliorer sa vie, comment faire ceci ou cela. Mais ici, ce que nous devons comprendre dans ce passage de la Bible, c'est que la plénitude spirituelle, pour être bien spirituellement, eh bien, il nous faut simplement aller au Christ et méditer sur lui. Nous connaissons en effet celui qui peut nous donner la plus parfaite expérience spirituelle et la plus parfaite expérience de vie. Celui qui seul peut nous apporter une joie et un contentement, même dans les difficultés. Peut-être que nous avons à réapprendre la méditation au sujet de Jésus-Christ, la méditation de passages comme celui-ci de la Bible, pour que notre foi soit édifiée et que nous grandissions dans notre foi. Paul va terminer son discours sur Jésus-Christ en affirmant qu'il est celui à travers qui Dieu a tout réconcilié avec lui-même. Ce verset nous montre qu'il n'y a qu'un seul moyen pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. C'est en Jésus-Christ. Et c'est par le sang de la croix. Mais ceci exige une réponse de l'être humain. Une réponse même de chacun d'entre nous. Est-ce que l'homme va se soumettre au Christ et accepter qu'il est son maître, son chef, son sauveur? Est-ce qu'il va lui demander pardon pour ses péchés? Ou est-ce qu'il va continuer à vivre sa vie de manière autonome? C'est à chacun d'entre nous de répondre à ces questions, si nous ne l'avons pas déjà fait. J'en viens maintenant au troisième point. Après avoir tracé ce portrait magnifique du Christ, Paul va ensuite détailler ce que cela signifie pour les Colossiens. Alors il y a là un bel exemple d'une croyance biblique forte, appliqué à la vie de personnes, à la vie d'êtres humains comme nous. Paul détaille d'abord l'état dans lequel étaient les Colossiens. Ils étaient étrangers, c'est-à-dire qu'avant leur conversion, ils étaient séparés de Dieu. Et c'était également notre cas si nous sommes convertis aujourd'hui. Ils étaient ennemis. Cette séparation était un tel point qu'ils étaient en révolte contre Dieu.
Ils étaient nommés ennemis de Dieu. Mais ça va plus loin. Ils étaient ennemis par leurs pensées et leurs actions mauvaises. Le péché atteignait en fait tous les composantes de leur être, tous les domaines de l'être humain. Et c'est là la doctrine en fait du péché qui touche tout l'être humain, l'entier de l'être humain. L'homme est pécheur dans tout son être. Il pense qu'il n'a pas besoin d'un sauveur. Il rejette le sacrifice de Jésus-Christ pour être en paix avec Dieu. Il dit en quelque sorte, « Non, je n'ai pas besoin qu'un Dieu s'intéresse à moi et je n'ai pas besoin qu'un Dieu vienne vers moi. Je peux vivre ma vie seul. » Mais pour les chrétiens de l'église de Colosse, Paul affirme ensuite qu'ils ont été réconciliés et que l'objectif du Christ en eux est de les faire paraître saints et sans défaut devant lui. Alors il est intéressant de noter que cet objectif nous concerne aussi. Nous sommes appelés à être saints et sans défaut. Mais cela est fait par Jésus-Christ. Et c'est ça qui est réconfortant. Il y a bien une participation de notre part, mais notre participation, c'est simplement de nous repentir lorsque nous tombons dans le péché et de chercher toujours en Christ la réconciliation avec Dieu. C'est en demeurant dans la foi que l'homme, que chacun d'entre nous, ne seront pas emportés loin de l'espérance de l'Évangile. En effet, celui qui n'a pas la foi ne peut pas prétendre qu'il ira au ciel. Il ne peut pas prétendre qu'il va être avec Dieu pour l'éternité. C'est donc un encouragement que Paul donne afin que les chrétiens montrent qu'ils sont dans la foi en demeurant justement dans celle-ci. Pour revenir à l'illustration de la peinture, il y a plusieurs semaines de cela, j'avais visité une exposition sur Monet à Martigny. Et je n'y connais rien en peinture, hein. Probablement, peut-être comme certains d'entre vous, vous avez passé par les cours à l'école, on vous apprend à peindre, mais alors moi, j'étais un peu celui qui faisait vraiment de travers les dessins, disons. Et puis, je suis allé à cette exposition, et puis certaines toiles m'intriguaient, parce que je me disais, bon, je trouvais pas ça super, alors je disais, bon, je suis pas expert, donc je vais pas juger ces toiles. Mais après, j'ai remarqué qu'en m'éloignant, parfois, de certaines peintures, eh bien, tout d'un coup, ça devenait vraiment magnifique. Et effectivement, j'ai dû prendre un peu de temps pour comprendre comment il fallait regarder ces peintures. Eh bien, l'exhortation que Paul nous laisse ici, c'est peut-être qu'aussi, parfois, nous sommes appelés à méditer sur des passages de la parole de Dieu que nous ne connaissons pas et qui nous paraissent parfois peut-être un peu bizarres, afin de mieux comprendre qui est Jésus-Christ, de comprendre peut-être une autre facette de sa personne. Et Dieu promet que si nous le cherchons, il se laissera trouver par lui. Et je pense que c'est un moyen également pour développer notre foi. J'en arrive maintenant à la conclusion de ce message. Nous avons cherché ce matin à voir comment la description du Christ dans l'Épître aux Colossiens pouvait affecter notre vie et notre manière de comprendre le Seigneur. Nous avons vu au départ de ce texte que Paul incitait les chrétiens à produire du fruit dans leur vie. Et que cela peut être aussi notre cas si nous cherchons à être remplis de la connaissance de Dieu. Car cette connaissance aura une implication dans notre vie. Elle nous transformera et nous incitera à produire du fruit et à être bons envers les uns les autres et à produire toutes sortes de bonnes œuvres. Mais elle nous transformera également dans notre manière de nous conduire dans la vie. Puis nous avons vu le portrait que Paul trace de Jésus-Christ. Nous avons notamment insisté sur le fait que ce portrait nous incite à toujours placer Jésus-Christ comme chef de notre vie et comme centre au niveau de nos choix. Nous avons vu que le but de notre vie n'est pas de vivre pour nous-mêmes, mais de glorifier Jésus-Christ en toutes choses. Enfin, nous avons vu que tout ce discours de Paul a une implication pour les Colossiens et pour nous-mêmes également. C'est par le sacrifice et la résurrection de Christ qui sont réconciliés avec Dieu, qui sont en paix avec Dieu, alors qu'ils étaient rebelles et ennemis autrefois. Aujourd'hui, nous aussi, si nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre chef et comme notre sauveur, nous sommes en paix avec Dieu et nous sommes aussi appelés à le suivre et à persévérer avec lui. Que Dieu nous aide à méditer sur cette magnifique description du Christ et que cela nous conduise à vivre d'une manière digne du Seigneur et à produire toutes sortes de bonnes œuvres. Amen.